Chapitre 28. S'éloignant du fleuve, les voyageurs se dirigèrent vers une chaîne de montagnes dont les contreforts verdoyants s'étendaient sur des lieues et des lieues. D'après leurs informations, une grande vallée fertile succéderait au pic déchiqueté. Au bout, ils aborderaient une seconde chaîne, celle où se nichait Colader. Pour Nathan, ce voyage était un défi à relever. Mieux que ça même, une aventure. Durant ces siècles de sédentarisés forcés au palais, c'était exactement de ça qu'il rêvait, sans avoir prévu la perte de son don cependant. Abandonnant la voie impériale, les trois voyageurs traversèrent une série de collines couvertes de trembles, un cadre magnifique rehaussé par la douce chanson du vent dans les feuillages. En fin d'après-midi, Nathan repéra un emplacement dégagé près d'un ruisseau et proposa qu'il campe là. Bannon s'en fut à la chasse aux lapins, mais il revint avec quelques pommes sauvages et une brassée de massettes, dont la pulpe, affirma-t-il une fois cuite, ferait une purée un peu fade mais nourrissante. Au menu, ils ajoutèrent du poisson fumé, un cadeau des habitants de Renda-sur-Bay. Après le dîner, Nietzsche s'endormit pendant que Nathan racontait d'autres histoires terribles dont il avait le secret. Au moins, Bannon écouta jusqu'au bout. Le lendemain, le petit groupe continua à traverser les collines, sur une piste assez large pour laisser passer un cheval alors qu'il n'avait pas croisé de village depuis des jours.
« Il devrait y avoir une ville devant nous !» annonça Nathan après avoir consulté sa carte. « Nommée Lockridge, d'après ce qu'on nous a dit dans le dernier village. »
Le sorcier regarda autour de lui, cherchant à s'orienter.
« Enfin, en principe, si je ne me trompe pas, on y sera avant la tombée de la nuit. »«
Je suis content de voyager avec vous !»
dit soudain Bannon.
« Aussi longtemps que vous m'accepterez !»
Nathan se demanda dans combien de jours, de mois ou d'années il trouverait Colader. Mais une fois arrivé dans cette cité, ou sur ce pic, ou au bord de cette mare magique, il redeviendrait entier. Jusque-là, il se sentirait vide et inutile. Même s'il était un très bon aventurier sans son don et un escrimeur digne de ce nom, la magie faisait partie de lui et il détestait l'idée que son Han soit devenu une force hostile. Plus les trois voyageurs s'éloignaient de Renda-sur-Bay, plus la carte de Thaddeus se révélait approximative.
« Je suis sûr que les citadins nous aideront, » affirma Nathan.
Sur un promontoire rocheux qui offrait une vue dégagée impressionnante par temps clair, il marqua une longue pause qu'il mit à profit pour se repérer. Bannon désigna une flèche de pierre qui dominait de loin toutes les autres élévations.
« Vous avez vu ça? On dirait une tour.
Une autre pyramide ?» avança Nietzsche.
« Non, » répondit Nathan, « cette structure est beaucoup plus grande. Bannon a raison, c'est une tour. »
Le sorcier mit une main en visière. Gêné par le soleil matinal, il ne put pas voir tous les détails, mais il distingua une rotonde au mur à demi écroulé.
« Oui, tu as vu juste, fiston. Cela dit, je n'aperçois personne là-haut. »«
Un bon endroit où ériger une tour de guet, non ?» demanda Nietzsche.
Un avant-poste idéal, en effet.
Nathan pivota sur lui-même pour scruter les environs.
C'est le plus haut point d'observation de cette zone. De là, on doit voir très loin.
Une idée lui traversant l'esprit, le sorcier frétilla d'excitation.
Je pourrais aller là-bas et en revenir en quelques heures. Une vision panoramique de la région vaudrait largement cet effort.
Si tu crois que c'est indispensable, dit Nietzsche, je t'accompagnerai.
Sur la défensive, Nathan se tourna vers la magicienne. Depuis qu'il avait perdu son don, elle estimait indispensable de le protéger.
« Inutile qu'on fasse tous le chemin. Avec ou sans sa magie, Nathan Rahl n'a pas besoin d'une nounou. Laisse-moi faire, magicienne. Pendant que vous avancerez, j'irai là-bas et je corrigerai ma carte. Quand vous atteindrez cette ville, trouvez-vous un hébergement et commandez un bon repas. En vous rejoignant, j'aurai l'estomac dans les talons. »
Bannon bomba fièrement le torse.
« Je viens avec vous, Nathan. S'il y a du grabuge, nous ne serons pas de trop, Solide et moi. En plus, je vous tiendrai compagnie et vous me raconterez d'autres histoires. »
Nathan comprit que le jeune homme avait très envie qu'il accepte. En fait, il redoutait de se retrouver seul avec Nietzsche. Mais le vieil homme ne voulait pas de compagnie. Depuis que sa magie lui faisait défaut, au point qu'il n'ose plus essayer de l'invoquer, il ne ratait pas une occasion de se prouver sa valeur.
« C'est tentant, fiston, mais je n'ai pas besoin de ton aide.
Des mots un peu trop durs, s'avisa le sorcier qui s'empressa de les modérer.
Tout ira bien, je te le garantis. En suivant cette crête, ce sera un jeu d'enfant. Par les esprits du bien, si je ne parviens pas à trouver le point le plus haut d'une région, autant me mettre au rancard. Tous les deux, vous n'avez aucune raison de faire un détour.
Nietzsche décida de ne pas insister.
Comme tu voudras, sorcier.
Merci. Essayez de ne pas avoir besoin de moi pendant que je serai absent.
Fier de sa saillie, le vieil homme tapota l'épaule de Bannon.
Va avec elle, fiston. Et si ta lame pouvait lui sauver la vie, ne l'abandonne pas.
Nietzsche fit la grimace. Le jeune homme lui acquiesça gravement. Sans au revoir inutile, le sorcier s'éloigna, se dirigea vers la crête qu'il avait indiquée et garda les yeux rivés sur son objectif. De peur que Nietzsche et Bannon changent d'avis, il pressa le pas.
« Je suis toujours un sorcier, nom de nom !»
Son Han était là, même s'il ressemblait plus à un chien enragé qu'à un compagnon docile. De plus, Nathan disposait d'une épée, il était doué pour l'escrime et il avait un millénaire d'expérience comme viatique. Largement de quoi gérer seul un simple boulot d'éclaireur. Après la fameuse crête, le chemin devint une succession de creux et de bosses. À chaque remontée, le sorcier apercevait la tour, qui semblait toujours à des lieues de distance. Mais il ne se laissa pas décourager. Il atteindrait son objectif et glanerait les informations dont il avait besoin. Dans un territoire inexploré où il était le premier ambassadeur itinérant de Dara à mettre les pieds, il se montrerait digne de la confiance que lui avait accordée Richard. Les jambes éprouvées par le terrain accidenté, il marqua une pause pour étudier les mystérieux symboles gravés sur le tronc d'un tremble abattu par la foudre. Avec la croissance de l'arbre, les pictogrammes s'étaient brouillés. De toute façon, on ne les distinguait plus très bien. Assez, cependant, pour voir qu'il ne s'agissait pas de Haut-Daran, et pas davantage d'une des langues mortes que Nathan avait étudiée à Tanimura. À l'évidence, il était vraiment dans une contrée étrangère. Quand il fut loin de ses compagnons, seul dans la nature sauvage et en sécurité, le vieil homme s'autorisa à faire le point. Que de changements depuis que Nietzsche et lui étaient partis de Dara. Pour un homme de son âge, il était dans une forme remarquable. Musclé, souple, actif et vif, sans compter ses talents d'escrimeur, même s'il était le seul à les louer. Mais sa magie l'avait lâché et ça lui flanquait une trouille irrationnelle. Une épreuve pour un homme hautement rationnel. Comment oublier la catastrophe quand il avait tenté de guérir ce pauvre type? Comme un cheval indompté, la magie avait tout fait pour échapper à son contrôle. S'il réessayait, que risquait-il de se produire? Son don était toujours là, mais menaçant comme une bête sauvage. À proximité de ses amis, il n'aurait pas pris le moindre risque. Là, n'est-ce pas le moment idéal pour savoir où il en est? Et comment? Seul dans une forêt, loin de tout, il allait tenter le coup. Prudent, il décida d'écarter tout sort lié au feu. Inutile de provoquer un désastre qu'il serait incapable de réparer. Comme Nietzsche, il était plutôt doué pour contrôler l'air et le vent. Une bonne idée, non? Le sorcier regarda autour de lui où se dressaient des milliers d'arbres identiques. Qu'avait-il à perdre dans cette affaire? Au fond de lui-même, il trouva son Han et y puisa juste assez de pouvoir pour faire frémir un buisson. Même pas de quoi inciter un fruit mûr à tomber. Au début, rien ne se passa. Insistant, il harcela son Han et lui força la main afin de générer un banal courant d'air. Pour frémir, le buisson frémit. Puis il faillit s'envoler, emporté dans les airs par un cyclone. Une brise! Il avait voulu invoquer une brise. Les bras tendus, le vieil homme essaya de rappeler son sortilège. Mais la tornade gagna en puissance et des branches se brisèrent. Non loin de lui, un tremble s'écroula, déraciné. Soulevé du sol, les feuilles mortes tourbillonnaient dans les airs comme des confettis. Les éléments se déchaînaient, incontrôlables.
« Assez ! Par les esprits du bien, assez !»
Nathan tenta d'atteindre son Han et de le neutraliser, ou au moins de l'apaiser. Au bout d'un long moment, le vent tomba enfin, et il resta sonné, debout, le souffle court et les idées noires. Les cheveux en bataille, il s'appuya à un tremble. Il n'avait jamais voulu ça. Au moins, il n'aurait plus à se demander ce qu'il risquait s'il utilisait sa magie. Le plus souvent, il n'y arriverait pas, et en cas de succès, n'importe quelle catastrophe pouvait s'abattre sur lui. Une chance que Nietzsche et Bannon n'aient pas vu ça, et n'aient pas risqué d'en souffrir surtout.
Une expérience extraordinaire, mais que je n'ai aucune envie de répéter, pas avant d'en savoir plus.
Une heure plus tard, une nouvelle élévation permit à Nathan de voir qu'il avait fait la moitié du chemin. Encouragé, il accéléra le pas. Midi déjà passé, il avait la ferme intention d'accomplir sa mission et de gagner la ville, s'il y en avait une, avant la tombée de la nuit. Tout ça sans aide de la magie, bien entendu.
La tour se dressait au sommet d'une butte où des pins parvenaient à pousser entre de gros rochers. La face la plus proche étant lisse comme du verre, Nathan dut faire le tour pour découvrir un chemin taillé dans la pierre, assez large pour que trois hommes marchent de front ou pour laisser passer des destriers. Hors de l'abri de la forêt, le vent soufflait plutôt fort, constata le sorcier tandis qu'il montait vers la base de la tour, un édifice bien plus haut qu'il avait estimé de loin. De forme octogonale, la structure reposait sur d'énormes blocs de pierre de taille. Pour un tel projet, il avait fallu mobiliser un nombre incroyable de travailleurs ou une quantité tout aussi stupéfiante de magie. Nathan marqua une pause pour reprendre son souffle. Depuis cette citadelle, on devait voir un cavalier à des dizaines de lieues de distance. Une construction datant de l'époque de Kourgan. Le général Outros était-il monté au sommet pour étudier les terres qu'il venait de conquérir? Dans un silence qui devenait oppressant, Nathan leva les yeux et distingua les fenêtres de la tour. Certaines intactes et d'autres privées depuis beau temps de vitres. Quant aux murs, ils étaient en partie écroulés comme il avait cru le voir de loin.
Il y a quelqu'un ?
Même myope, une sentinelle l'aurait repéré depuis au moins une heure, et sur cette rampe d'accès, il aurait déjà pu se faire cribler de flèches 10 fois. Si quelqu'un lui avait voulu du mal, ça aurait été fait depuis longtemps. Du coup, autant se montrer amical.
Bonjour !
Toujours pas de réponse. Mal à l'aise, Nathan se rassura en tapotant le pommeau de son épée. Même privé de sortilège, il n'était pas sans défense.
Arraché de ses gonds, la porte principale de la tour gisait dans la poussière. Inspirant à fond, Nathan mobilisa tout son courage. Après avoir promis à ses compagnons qu'il réussirait, il ne pouvait pas rebrousser chemin sans être entré.
« Je viens en paix !»
cria-t-il, avant de marmonner.
« Sauf si on me force à changer d'avis !»
Nathan passa sous une arche, puis se trouva devant une herse dont les barreaux semblaient avoir été tordus par un géant. Il se faufila, déboucha dans une grande pièce ronde et repéra un escalier en colimaçon. Au milieu de la salle, 5 squelettes en cuirasse pourrie gisaient en tas comme après une chute vertigineuse. Sans même toucher son han, Nathan capta les antiques vibrations d'une magie très puissante, comme si cet endroit avait subi l'assaut d'un sorcier, ou comme si ses défenseurs, avant de succomber, avaient invoqué tous les sorts qu'ils connaissaient. Nathan s'attaqua aux marches et fut très vite à bout de souffle. En forme ou non, aventurier ou pas, après un millénaire, on n'avait plus ses jambes de 20 ans. Au sommet de la tour, dans une rotonde au plancher renforcé de fer, le vent hurlait à la mort. Une partie du mur manquait, mais ça ne semblait pas dû à l'âge ni aux intempéries. Une zone très nettement découpée de la muraille était absente, comme si elle avait été soufflée par une explosion. Une implosion, plutôt, parce que la partie arrachée gisait au pied de la tour, assez loin pour ne pas s'être simplement détachée et écrasée en bas. Sur les murs intacts, de grandes fenêtres de verre rouge permettaient de sonder les environs. Sur les 8, 3 avaient implosé aussi, des éclats de verre encore accrochés à leur cadre. Les autres étaient intacts, probablement parce qu'on les avait renforcés avec un sortilège. Comme si la présence d'un intrus l'agaçait, le vent soufflait de plus en plus fort. Se campant au milieu de la rotonde, Nathan tenta de déterminer ce qui s'y était passé. Sur le sol, d'autres squelettes en cuirasse reposaient pour l'éternité. Du sang noirci depuis des lustres souillait les murs, où le sorcier remarqua des griffures, comme si on avait tenté de creuser la pierre avec des ongles. Nathan bougea et une des planches renforcées de fer grinça, comme si elle allait se briser.
Reculant d'instinct, le sorcier glissa sur le fémur d'un squelette, perdit l'équilibre et tendit les bras pour se raccrocher à la première prise venue. Ses mains se refermant sur l'encadrement d'une des fenêtres brisées, il cria de douleur, recula et baissa les yeux sur sa main blessée qui pissait le sang.
« Avec mon pouvoir, guérir, ça serait si facile !»
Même en l'absence de témoins, sa nullité lui fit monter le rouge au front. Il allait devoir panser la plaie et attendre que Nietzsche puisse la refermer. Soudain, il s'avisa que le rugissement du vent avait changé de nature. La tour entière vibrait, et une lumière rouge brillait dans la rotonde, avec pour point focal le sang qu'il avait laissé sur la fenêtre. Les cinq vitres intactes se mirent à luire.